Radio Okapi.
Oh, Okapi. Le journal, c'est avec Noël Alouzi Tukabambi.
La ville de Kindu, province de Maniema, accueille demain lundi la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, une première dans le Maniema. Il s'agit de présenter les potentialités de cette province afin d'attirer les investisseurs. Mise en place à Mbandaka, à l'Équateur, d'un comité de suivi permanent de la détention préventive, sa mission, pousser les acteurs judiciaires à respecter notamment les droits des détenus. C'est une initiative de l'ONG RCN, Justice et Démocratie, avec l'appui de l'Union européenne. Bonjour à tous. Une conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures est prévue demain lundi 14 octobre dans la province du Maniema. Déjà hier samedi 12 octobre, plusieurs délégations sont arrivées sur place pour participer à cette conférence, la toute première dans le Maniema. La rencontre vise à présenter les potentialités de cette province afin d'attirer les investisseurs. Florence Kizalunga pour les détails.
Le manager général de la Société des techniques spéciales, Loïc Vahouté, s'est dit heureux de participer à cette grande rencontre.
Nous sommes venus ici parce que nous sommes une société qui a une longue expérience depuis 15 ans en RDC. Nous avons développé dernièrement deux nouvelles centrales que nous avons construites, centrales hydroélectriques qui alimentent aujourd'hui les villes de Butembo et Beni. Et puis nous avons également réhabilité une centrale dans la province du Kasaï, à Chicapa, une centrale de près de 2 MW. Et à côté de cela, aujourd'hui, nous construisons une deuxième centrale de 4,3 MW, Lungudi 2, qui alimentera également la ville de Chicapa. Et nous sommes venus voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à profit cette expérience pour améliorer la desserte en énergie.
Pour la Sakimon, c'est une bonne opportunité. Fidèle Bassemenane.
D'abord, nous saluons vraiment l'initiative de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, parce qu'en fait, le développement d'Imanema ne peut pas se passer de l'énergie électrique et d'autres infrastructures notamment.
Jérôme Sekana, journaliste économique, estime aussi que c'est une opportunité à saisir pour les investisseurs.
Là, je salue l'initiative du gouverneur parce que lorsque on résout le problème de l'énergie, le problème des mines, le problème des infrastructures, le développement est au rendez-vous.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
En Ituri, 24 embarcations, des matériels de pêche dont des filets de différents pêcheurs sont saisis depuis le mercredi par la police lacustre ougandaise puis ramenés à Butiaba. Accusés de violation des limites et de pêche illicite sur les lacs Albert, leurs propriétaires sont détenus en Ouganda, affirme la société civile de la chefferie de Mokambo dans le territoire de Maragi. Grégoire Tumito indique que ces Congolais qui sont gardés à la prison de Boulissia sont soumis au paiement d'environ 200 dollars américains avant toute libération. Il lance un appel aux autorités pour que ces personnes recouvrent la liberté. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Pour ces militaires ougandais, ils jugent les Congolais de la chefferie de Mokambo d'avoir violé la frontière sur les lacs ou soit ils pratiquent les pêches non autorisées en Ouganda. Face à cette situation, la société civile de la chefferie de Mokambo demande aux militaires des forces navales basées à Moguma de multiplier et aussi des patrouilles de combat sur les lacs car les lacs dont les ressources halieutiques sont exploitées appartiennent aux Congolais et non aux Ougandais. Que les deux entités, les territoires de Mahagi et les districts de Moulissa, entrent en contact pour que la suite soit retrouvée en faveur des Congolais. La société civile de Mokambo exige la libération sans condition des Congolais qui croupissent en prison des malheurs et dont les familles sont en train d'être tracassées pour vendre leurs biens pour assistance de leurs membres des familles.
L'administrateur du territoire de Maragi promet de se prononcer à ce sujet dans les prochaines heures. Sur les lacs Édouard cette fois, au moins 15 autres moteurs hors bord des pêcheurs congolais ont aussi été saisis par les marins ougandais depuis vendredi. La Fédération des comités des pêcheurs du lac Édouard qui donne l'alerte précise que c'est au total plus de 160 moteurs hors bord qui sont encore confisqués en Ouganda. Dans une correspondance adressée le même vendredi au ministre congolais de la Défense, la FECOPEL estime que c'est l'une des conséquences du conflit des limites de frontières entre la RDC et l'Ouganda. Mais il reconnaît aussi la recrudescence de la pêche illicite sur les lacs Édouard côté congolais. Le secrétaire exécutif de cette organisation plaide pour une solution urgente. Josué Mukura est joint par Bernard Nyangi.
Le lac Édouard, partie intégrante du parc national de Virunga, est menacé au premier niveau par la déviation de la frontière liquide de Kagezi à Tchapa. Plus de 8 km sont maintenant considérés comme une partie ougandaise. Mais aussi, il y a la partie sud, la pêche illicite est soutenue par la rébellion M23 AFC, qui sont en Vichumbi. Dans la partie ouest, la pêche illicite est soutenue par certains officiers de la force navale de Kamandi, Lunyasenge. Avec cette pêche illicite, il y a surpêche et carasse de poissons. Certains pêcheurs congolais sont obligés de faire la poursuite des poissons en Ouganda ou dans la zone transfrontalière où ils sont maintenant menacés par des arrestations arbitraires. À l'heure où je vous parle, il y a maintenant plus de 160 monteurs hors bord saisis illégalement, dont le dernier lot a été saisi hier soir. C'est pourquoi nous avons alerté le vice-premier ministre de la Défense en fait de prendre des mesures idoines.
Au sujet du conflit des limites entre la RDC et l'Ouganda, rappelons que les experts congolais et ougandais s'étaient accordés le 6 septembre dernier à Goma sur un budget des travaux de démarcation des frontières qui doivent commencer en mai 2025. Mise en place depuis vendredi à Mbandaka d'un comité de suivi permanent de la détention préventive CSPDP. L'objectif est de pousser les acteurs judiciaires à respecter notamment les droits des détenus. Ce comité a vu le jour à l'initiative de l'ONG RCN Justice et Démocratie avec l'appui de l'Union européenne à travers le deuxième programme d'appui à la réforme de la justice. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Plusieurs participants à cet atelier ont reconnu l'existence à la prison centrale de Mbandaka des pratiques ou traitements cruels, inhumains et dégradants, mais aussi de nombreux cas de détention illégale, car faute de suivi, certains prévenus y croupissent plus longtemps que prévu. D'où l'opportunité de la mise en place d'un comité de suivi des droits des détenus préventifs, indique Adeline Mambembe, faisant fonction de premier président de la Cour d'appel de l'Équateur.
Puisque nous avons constaté qu'il y a des dossiers au niveau du tribunal de grande instance, bien qu'en voyant fixation, mais n'ont pas été enrôlés, n'ont pas de numéro. Alors, il y a de quoi se poser la question, mais quel est le sort de ces prévenus?
Qui est à cheval entre les deux institutions.
Entre les deux institutions. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place un tel comité qui peut encore éveiller l'attention des acteurs judiciaires à pouvoir poser les actes relevants de ces attributions.
Le nouveau comité doit compter en son sein les acteurs judiciaires de la société civile et de l'exécutif provincial. Et pour son efficacité, le ministre provincial de la Justice se rassure de l'implication de son gouvernement, Maître Marval Lutchekelami.
Il y a deux choses à faire. La descente sur les lieux carcéraux, palper la réalité de ce que les droits humains en matière carcérale et aussi relayer la voix aux autorités judiciaires afin que de ces autorités compétentes on puisse respecter les droits de détenus préventifs.
Bon, d'accord, prochain Malengela, Radio Okapi.
Dans le centre de la RDC, insécurité au Kasaï oriental. Plusieurs cas de criminalité ont été enregistrés la semaine dernière dans la ville de Mbujimayi. Le dernier cas en date est celui de jeudi dernier chez le chef du quartier Chikisha où des hommes armés ont volé une moto et plusieurs autres biens de valeur. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme que des stratégies ont été adoptées pour mettre fin à cette criminalité grandissante dans la ville de Mbujimayi. Un reportage d'Esther Dalafina rendu ici par Étienne Lissumbo.
D'après certains habitants de la Bodine 4 à la cité Miba, des bandits armés ont fait irruption au domicile du chef du quartier dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Ils ont perturbé pendant plusieurs heures la quiétude des voisins avec des coups de balle avant d'emporter plusieurs biens des valeurs, dont notamment la motocyclette de marque Bajaj et quelques matériels électroménagers. Le mercredi dernier, deux cas de vindicte populaire ont été enregistrés dans la commune de Bimpemba et de Lankashi. Plusieurs quartiers des cinq communes sont en proie aux actes d'extorsion commis par les jeunes non autrement identifiés. Il ravit les biens des passants et menace les policiers. Le chef traditionnel Mpoi Djibou de Bakwanga Bagwa Nyangwila demande aux autorités de trouver des solutions aux multiples cas de criminalité sur la ville. Le ministre provincial de l'Intérieur signale que les dispositions sont prises avec la police pour organiser des patrouilles nocturnes et diurnes dans les points les plus visités par les bandits.
La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée avec un certain retard le vendredi 11 octobre dernier dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, soit un jour après la date officielle et pour cause, l'arrivée tardive des intrants de vaccination. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lubero, 68 000 enfants de 0 à 59 mois sont attendus pour cette vaccination. Toutefois, il déplore le cas des enfants qui n'ont jamais été vaccinés dans cette zone à cause de l'insécurité. Les propos du docteur Cyril Mumbere et Moussi Viroy sont recueillis par Marc Marofimbo.
Nous avons des enfants non atteints, les enfants qui ont des problèmes avec leur calendrier vaccinal. Ce sont des enfants qui sont insuffisamment vaccinés. Donc, ce sont des dangers potentiels parce qu'ils n'ont pas pris toutes leurs doses et ils ne reçoivent pas régulièrement leurs doses, tant en campagne de routine que dans les campagnes de masse telles que maintenant. Donc, ce sont des enfants dont le statut vaccinal est douteux. Et il y a aussi des enfants que nous appelons les zéro doses. Ces enfants zéro dose, ce sont les enfants qui n'ont jamais goûté le vaccin, quel qu'il soit. Nous les avons en provenance de carrières militaires. Nous les avons malheureusement dans des camps militaires aussi, puisque vous savez, les soldats, dans l'exercice de leurs fonctions, des fois ils se déplacent et ils se déplacent aussi avec leurs dépendants. C'est comme ça que nous avons des enfants qui ne sont pas suffisamment vaccinés parmi des enfants dépendants des mouvements des militaires.
C'est une autre campagne qui a été lancée toujours au Nord Kivu, dans la ville de Beni notamment, hier samedi. Il s'agit de la campagne de lutte contre la pollution sonore lancée par la police nationale congolaise. Selon le chargé de communication de la police, cette campagne s'explique par la multiplicité des discothèques, des maisons d'édition des œuvres sonores ainsi que les églises. Ils polluent tous l'environnement sonore, la journée tout comme la nuit, mettant en danger la santé de la population, particulièrement des malades, des élèves et des personnes de troisième âge. Au terme de cette campagne, les contrevenants s'exposeront à des sanctions disciplinaires, annonce la police nationale congolaise. Un reportage de Marc Marofimbo.
Ici, nous sommes dans le quartier Matongé, en plein centre-ville de Beni, dans les environs immédiats d'une structure sanitaire, une discothèque et des églises dont la particularité est qu'elles rivalisent des sonorisations à fond pour se faire attendre. Les malades ne peuvent dans ces conditions avoir un bon repos tranquille. La situation est identique à l'hôpital général de référence de Beni. Le marché Kiloko, juste à côté, se distingue par une forte pollution sonore. Ce sont ces cas non exhaustifs qui ont poussé la police à lancer cette campagne de sensibilisation en direction des maisons d'édition, discothèques, églises et autres bars afin qu'ils s'amendent. Nassol Mourara est les chargés de communication de la police en ville de Beni.
Nous sommes dans une phase de sensibilisation pour ça. Il y a un moment donné où la police va arrêter ces auteurs-là parce que le tapage, c'est une infraction contre la loi. Je profite de sensibiliser ici tous ceux qui détiennent des cabines, des téléchargements de musique, des bars, même des églises. Ils doivent savoir qu'il y a les heures qui sont tardives où on doit laisser quand même les gens dormir. Ils se retrouvent à côté des écoles, des bureaux étatiques. Il faut avoir l'habitude de diminuer le volume.
Mourara ajoute qu'à l'issue de cette campagne de sensibilisation qui durera un mois, des mesures seront prises contre les contrevenants, y compris des poursuites judiciaires si nécessaire. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans le Haut-Katanga, la direction provinciale de l'Institut national de la statistique vient de publier son rapport intitulé « Lubumbashi en chiffres 2023 ». Ce document, qui touche à plusieurs secteurs de la vie, est une source d'information pour une gestion efficace des entités de cette ville, estime son directeur. On écoute Gérard Loango, directeur provincial de l'Institut national de la statistique dans le Haut-Katanga. Il est au micro de Jean Gandou.
L'objectif qu'on poursuit en publiant le Lubumbashi en chiffres, c'est de mettre à la disposition des autorités municipales les informations essentielles pour améliorer la prise des décisions, principalement. Les objectifs secondaires poursuivis, c'est mettre à la disposition des chercheurs, des étudiants et de la population une vue d'ensemble de la situation de la ville de Lubumbashi, quelques chiffres clés qui pourront permettre à certains de voir comment peut-être investir, comprendre un peu les dynamiques qu'il y a dans cette ville. En gros, dans la ville de Lubumbashi, nous avons trois tribunaux. La taille moyenne des ménages des 6, on a 7 communes dans la ville de Lubumbashi. L'inflation durant l'année 2023 était de 21%. 36% des ménages se sentent en insécurité. 51% des ménages ont eu besoin d'accéder aux soins de santé. 58% des ménages sont connectés à la SNEL. 60% des naissances ont été enregistrées dans les délais. Et on a connu 269 cas de divorce. Le taux de chômage était estimé à 11% et l'indice des Gini était estimé à 0,47.
L'invité.
Vale Manga, expert en transport multimodal et sécurité routière, s'est entretenu avec Blaise Shindani Kambala à propos de l'absence des parkings publics aménagés dans plusieurs villes de la RDC.
Bonjour, monsieur Vale Manga.
Bonjour, Radio Capi.
À travers les grandes villes du pays, la question des parkings des véhicules privés et même publics est un casse-tête. Partant de Bukavu à Kisangani, Lubumbashi, de Kinshasa en passant par Kananga, les conducteurs ont un problème sérieux pour garer leur voiture. Comment analysez-vous ce problème?
C'est une simple question d'organisation et de politique nationale de transport. Il faudrait que nous puissions savoir que dès que les véhicules sont en circulation, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, des normes. Donc, nous circulons sans arrêt de bus. Le code de la route n'est pas respecté. Voilà pourquoi, comme il n'y a pas une vraie politique de transport, il n'y a pas de planification, il n'y a rien du tout. C'est ce qui fait que nous circulons comme des brebis, sans boussole, sans respect des normes en matière de circulation routière.
En écoutant les conducteurs à travers le pays, ils se posent la question si pourquoi le gouvernement ne s'investit pas du tout dans ce domaine.
La création de parkings dépend d'abord d'une étude de ville en ville. Prenons la ville de Kinshasa. Nous avons JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, qui était venue faire une étude. Nous avons fait une étude pour que nous puissions avoir d'une manière réglementaire tout ce qui concerne la circulation. C'est le PDTK. Donc, nous manquons de parking et des arrêts de bus aménagé. Je dis bien aménagé, c'est-à-dire on bétonne et puis il y a le panneau de signalisation qui indique qu'il y a un parking ici, il y a un arrêt de bus par là. Donc c'est tout ça qui fait que toutes nos villes manquent ce que nous appelons nous le parking, les arrêts de bus et tout et qu'on sort. Voilà pourquoi tout se passe comme si de rien n'était. Voilà un peu les difficultés auxquelles sont confrontés nos conducteurs quand ils quittent leur lieu de stockage de bus pour pouvoir aller, par exemple, en exploitation dans nos villes.
Monsieur Vale Manga, pour le cas de Kinshasa, par exemple, où il n'y a pas de parking, mais nous voyons les véhicules de la police nationale congolaise qui remorquent les voitures garées sur le trottoir. Comment pouvez-vous expliquer ça?
Eh bien, c'est une entorse, c'est une anomalie de la part de la police. Normalement, la Commission nationale de prévention routière devait implanter des panneaux partout pour dire qu'il y a un arrêt de bus ici, il y a un parking. À Kinshasa, nous n'avons pas de parking. Nous avons seulement un parking qui se trouve à l'intérieur de la galerie présidentielle. Il n'y a que ça. À part ça, il n'y a pas d'autres parkings à l'époque à Bandal, mais c'est déjà désaffecté. D'où nous disons que le SOSAC, aujourd'hui PDTK, doit être, ce sont des plans donc de transport urbain, ça doit être appliqué. Appliqué dans toute sa rigueur. C'est-à-dire que nous devons avoir autant de panneaux de signalisation qui indiquent les arrêts de bus, qui indiquent les parkings et avec les nouvelles routes qui sont en train d'être construites, c'est-à-dire la rocade ouest, il faut nécessairement prévoir tous ces parkings-là. Il faut prévoir dans la ville de Kinshasa autant de parkings pour que nous puissions savoir que dans la ville de Kinshasa, il y a tel parking, il y a 600 arrêts de bus. Mais dans le 600, il n'y a aucun arrêt de bus qui respecte les normes. Un arrêt de bus est caractérisé par soit un panneau de signalisation, le bétonnage ou encore on aménage le lieu. Mais à Kinshasa, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc vous entendrez arrêt par exemple Mollard, mais vous ne savez même pas comment ça se situe et comment on a aménagé rien du tout.
Voilà, nous chutons d'ailleurs par là. En tant qu'expert en transport multimodal et sécurité routière, qu'est-ce qui devrait être fait normalement pour pallier à cette difficulté-là?
Il faut que le ministère des Transports national puisse avoir des experts attitrés. C'est pas n'importe qui peut être au ministère des transports. Donc, la politique même de l'organisation donc du système de transport doit être d'abord bien ficelée. Ensuite, il faudrait nécessairement que, après l'étude de la ville de Kinshasa ou encore des villes, il faut indiquer là où on doit parquer, par exemple, des véhicules, là où on doit stationner, là où il y a des arrêts de bus. Alors, compte tenu de tout cela, il faut nécessairement qu'il y ait les états généraux de transport pour pouvoir, par exemple, bien organiser le système de transport dans nos villes et à travers toute la République démocratique du Congo.
Vale Manga, merci beaucoup.
Merci Radio Okapi, merci aussi à tous les auditeurs qui vont nous suivre.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.